Peut-on concevoir une société sans travail ? Alors, notre société, qui n'est pas à un paradoxe près, considère le travail d'une manière ambivalente. Il est considéré à la fois, évidemment, comme une malédiction qui vient nous arracher une vie de loisir, qui nous fait vieillir prématurément, qui nous préoccupe sans discontinuer, même dans notre vie intime ou quotidienne, et qui, en six mots, nous fait souffrir et nous angoisse. Mais il est aussi considéré comme formateur, nécessaire, souhaitable, à tel point qu'un homme sans travail est aujourd'hui plaint ou montré du doigt, enfin, du moins si on le soupçonne de ne pas tout faire pour chercher un travail, justement. Alors plutôt que de l'envier, on le rabaisse, on le soupçonne de malhonnêteté, ou on se félicite de ne pas être dans sa situation. Alors là, je voulais parler du cas des intermittents du spectacle, mais ma femme l'a déconseillé, parce que là, ça faisait un parallèle étrange entre chômeurs et intermittents, ce qui n'était pas du tout ce que je voulais donner, mais on y reviendra peut-être. En tout cas, si on ne considère pas les gens qui justement n'ont pas de travail ainsi, eh bien, en général, et surtout en période de crise, les chômeurs ont parfois l'impression que c'est bien comme ça qu'on les voit. Alors pire, un documentaire récent montre, alors je ne suis pas allé jusqu'à chercher le titre, je ne me rappelle plus du titre, j'aurais dû, mais un documentaire que, ça va vous faire une belle jambe, que j'ai vu il y a peu, montre le désespoir et le désœuvrement de personnes qui viennent de perdre leur emploi dans une usine où ils étaient manifestement exploités, où ils s'épuisaient à travailler dans le bruit, dans la répétition des mêmes tâches, des heures et des heures, durant toute la semaine, jusqu'à épuisement, et puis parfois depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, alors lorsque leur usine ferme, eh bien, ils perdent tout sens à leur vie, ils ne savent plus quoi faire de leur journée, ils semblent totalement perdus, alors qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire, nous, spectateurs, que bon sang, c'est une chance, c'est là la possibilité d'un nouveau départ. C'est une occasion de souffler un peu et de se recentrer peut-être sur ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Alors on peut remarquer que cette ambivalence, vous l'avez compris, entre le travail comme une malédiction et le travail, au contraire, comme quelque chose de nécessaire, mais cette ambivalence n'est pas nouvelle et ça se retrouve un peu dans notre considération de certaines professions elles-mêmes, au hasard. Allez, je prends une profession au hasard, par exemple, professeur de l'éducation nationale. Je connais bien, parce qu'il se trouve que c'est justement ma profession. Là, on voit tout de suite le paradoxe. C'est-à-dire que les professeurs de l'éducation nationale sont à la fois loués, hein, quand on y pense d'emblée, en général, on les félicite pour leur courage, tenir devant des classes, parfois très difficiles, là, c'est pas mon cas, faire ses premières armes dans des collèges de banlieue parisienne, être sapé dans son élan par les faibles moyens accordés par le ministère. Ça, c'est mon cas. Donner un cours devant des élèves qui n'écoutent pas toujours, qui sont parfois hostiles à toute forme d'autorité, être souvent inondé de copies, et surtout, être constamment en représentation devant une classe, même malade, même déprimé, oui, c'est pas toujours une situation enviable. Bon, alors d'un côté, il y a la situation difficile du professeur, que à peu près tout le monde reconnaît vaguement quand on y vient. Mais, pourtant, si chacun considère qu'ils préféreraient faire n'importe quoi d'autre que ce métier, d'ailleurs en particulier les élèves eux-mêmes, qu'il m'arrive de faire rire en leur disant que s'ils ne travaillent pas, ils deviendront professeurs, eh bien, si chacun reconnaît que personne n'a vraiment envie de le faire, surtout en ce moment, voilà, eh bien, on ne compte pas les remarques acerbes faisant passer les mêmes professeurs, hein, loués il y a quelques instants, pour des profiteurs ou des fainéants. Alors dans ces cas-là, on dit « vacances longues et payées », ce qui est d'ailleurs faux, peu d'heures de cours devant les élèves, beaucoup de temps pour la famille, ce qui est faux aussi, etc. Bien. Enfin, alors, je reviens juste, ça c'est pas le but, mais comme c'est une tribune, je me permets de régler quand même une injustice. Non, les vacances longues ne sont pas payées, puisqu'elles sont déduites. Je pense que tout le monde devrait à peu près le savoir, mais tout le monde l'oublie quand il s'agit de considérer cette profession. Donc c'est déduit sur notre salaire, sur toute l'année, mais lycée. Peut-être pour ça qu'on est payé si peu. Peu importe. Bon, ça, c'est du côté des professeurs, on voit bien l'ambivalence, les pauvres, c'est dur, mais d'un autre côté, en même temps, c'est tellement des fainéants, alors on ne voit pas trop comment c'est conciliable, mais peu importe. Du côté des élèves, soyons honnêtes, le bilan est également sévère. Des journées entières à ne pas bouger de sa chaise, à écouter de vieilles personnes défiler et raconter leurs cours. Alors, vous allez me dire, tous les professeurs ne sont pas vieux, mais tous les élèves voient leurs professeurs comme vieux, ce qui revient donc au même. à supporter des heures et des heures d'apprentissage sans possibilité d'échapper à ce type de contraintes. Bon, donc c'est vraiment quand même une situation difficile, des élèves obligés de subir des professeurs, même s'ils sont intéressants, ils sont obligés de les subir parce qu'ils n'ont pas le choix. Si bien que si on fait le décompte, et je suis un peu désolé de commencer comme ça, parce que d'ailleurs là je vais vous effrayer, je vais essayer de ne pas partir tout de suite après, je vais essayer de... Mais si on fait le décompte, on mesure la disproportion. On passe, je l'avais déjà dit, un tiers de notre vie à dormir. Bon, enfin, quand on dort 8 heures par nuit, ce qui n'est pas tout à fait notre cas, donc rassurez-vous, passez un peu moins du tiers de notre vie à dormir. Mais si on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir, on passe la moitié de ses journées à travailler. Il nous reste donc environ un sixième de notre vie pour faire autre chose. Et la plupart du temps, c'est à peine le temps qu'il nous faut pour récupérer justement notre journée de travail, ou pour nous divertir, c'est-à-dire pour simplement penser à autre chose. Alors vous allez me dire, bon, il y a quand même d'autres choses dans la vie, on peut faire des enfants. Oui, mais faire des enfants, ça ne facilite pas toujours la tâche. Là encore, je parle d'expérience, j'en ai trois. Eh bien, je passe ma soirée à leur faire faire leurs devoirs, moi qui ai passé ma jeunesse à essayer d'y échapper. Donc, si vous voulez, voilà. Après le travail, ouf, consolation les enfants, donc du travail à leur infliger en plus. Pourquoi pas? Mais à l'inverse, soyons honnêtes, là encore, sans travail, c'est notre raison de nous lever le matin qui semble disparaître. Parce qu'une grande part de notre personne sociale, et donc de notre vie, tourne autour de notre activité professionnelle. D'où d'ailleurs, c'est intéressant, la première question qu'on vous pose en général, bon, là, peut-être la deuxième, d'abord c'est, bon, vous appelez comment ? Éventuellement. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et c'est d'autant plus intéressant que généralement, on répond dans ces cas-là, son travail. Alors que ce n'est pas forcément ce qu'on fait de plus intéressant dans la vie. Mais à part le fait que notre déformation même fait que dès qu'on nous demande ce qu'on fait, on répond son travail, si vous dites rien, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Rien. Vous mettez les gens très mal à l'aise et puis vous perdez l'occasion de faire la conversation. En général, c'est le moment où les gens s'en vont. On se demande alors comment vous vivez, comment vous survivez. On soupçonne même parfois d'être dans l'indigence. Et comme Woody Allen le disait très bien, la richesse est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. Bref, ces difficultés peuvent nous faire considérer le travail comme une contrainte difficile à vivre et qu'on voudrait d'ailleurs idéalement voir disparaître. Mais d'un autre côté, le travail semble à condition même d'une vie en société et même, nous le verrons, d'un accomplissement personnel. Encore faut-il comprendre ce qu'il faut entendre par ce terme. Et il faudra s'interroger sur l'idée que c'est peut-être la nature du travail qui a changé, qui a été amenée à changer au fil du temps. Donc, une société sans travail peut nous sembler impossible. La répartition des tâches, la complémentarité des travailleurs nécessite un travail commun. Et pourtant, le travail peut sembler, à maints égards, ce qui dénature notre vie sociale en forçant les comportements et en poussant les hommes à accomplir des tâches répétitives durant l'essentiel de leur vie. Ce serait alors l'habitude qui nous empêcherait de voir qu'il y a un au-delà du travail. Bon, alors pour analyser un peu ces situations, nous procéderons aux surprises en trois temps. Première analyse, on va essayer de décrire un peu le travail comme fondement de la vie économique et de la vie sociale. Donc on essaiera d'évoquer la nécessité sociale, notamment, pas seulement, du travail. Et puis une deuxième analyse, plus sombre, essaiera de montrer les transformations, enfin plutôt la crise de la société moderne et du commerce mondialisé. Et donc, une première analyse de la dénaturation du travail. Et puis un troisième temps, troisième analyse, parlera de la transformation du travail, mais plutôt à un niveau existentiel. Et cette fois-ci, on essaiera de faire tourner un peu le débat autour de deux questions contemporaines, mais qui tournent à chaque fois, qui touchent au thème de l'existence. Et nous verrons d'abord pourquoi ces transformations du travail ne sont que l'écho d'une transformation plus générale de l'existence humaine. Et puis, nous nous demanderons surtout s'il est possible d'envisager une fin du travail. Donc, je laisse évidemment la question de base pour la fin. On essaiera d'y réfléchir ensemble. Bon, alors... Je vais entamer mon analyse. Un instant. J'aime mieux mesurer le temps, parce que sinon je déborde allègrement, étant d'un naturel plutôt bavard. Alors, le travail, d'abord, on va essayer de l'envisager comme fondement de la vie économique et de la vie sociale. Déjà, on peut se dire que le travail, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui fonde la valeur d'un bien ou d'un service. D'une façon générale, c'est ça. On peut se dire que toute richesse a d'abord pour fondement un savoir-faire, de la peine et du temps que les hommes ont investi pour transformer d'abord une sorte de matière première qui permettra de produire un bien. Ça, c'est la définition un peu générale, même si, à certains égards, elle peut sembler ne pas dépeindre la totalité du travail. En tout cas, ce qu'on peut d'emblée signaler, c'est que cette aptitude à produire de la richesse, c'est vraiment une signature de l'humain en l'homme. C'est-à-dire que l'homme, contrairement à l'animal, va se produire un univers artificiel, un monde artificiel fait de transformations, et qui excède, bien sûr, le cadre simplement naturel. C'est-à-dire qu'en un sens, je ne vais pas essayer de développer trop longuement ça, parce que je l'avais déjà développé à d'autres moments, et je n'ai pas envie de me répéter trop non plus, mais seul l'homme travaille, d'abord parce que si on peut reconnaître à l'animal une activité de transformation du milieu, eh bien, on peut se dire que celle-ci est spontanée, réglée par l'instinct, et donc n'est justement pas comparable à cette espèce d'effort d'arrachement à la naturalité que constitue la nature humaine. Bon, si je reprends, j'ai pris un exemple qui revient de façon récurrente. Bon, les fans pourront là y voir une sorte de gag récurrent. C'est pas du tout un gag, mais donc ces fameux castors qui construisent un barrage ne travaillent pas, au fond. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ils ne travaillent pas parce que, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils agissent spontanément, d'une façon naturelle, et n'envisagent pas justement de produire quelque chose en ayant déjà des plans à l'avance déterminés, à tel point que, bon, si vous voulez comprendre la suite de l'anecdote, puisque je vais aller très vite, écoutez les autres conférences de Garrigue, mais les scientifiques avaient fait une expérience dans laquelle ils avaient mis des castors en situation, qui ont construit un barrage autour d'un haut-parleur, parce qu'il répondait à un simple stimulus. Un haut-parleur diffusait un bruit d'eau, on rentre du boulot, les castors ont construit un gros barrage autour du haut-parleur. Oui, bien sûr, ça ne sert à rien, c'est justement ce que j'essaie de montrer. Donc, ce n'est pas du travail, puisqu'il n'y a pas la volonté de produire quelque chose pour lequel on n'est pas d'emblée destiné. Alors, Marx le dit beaucoup mieux que moi, je donne un extrait du Capital. « Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature. » L'homme y joue lui-même, vis-à-vis de la nature, le rôle d'une puissance naturelle. Les forces dont son corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il les met en mouvement afin de s'assimiler des matières, en leur donnant une forme utile à sa vie. En même temps qu'il agit sur ce mouvement par sa nature extérieure et la modifie, il modifie sa propre nature et développe les facultés qui y sommeillent. Ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles. Il y réalise du même coup son propre but, dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action et auquel il doit subordonner sa volonté. L'œuvre exige pendant toute sa durée une attention soutenue, laquelle ne peut elle-même résulter que d'une tension constante de la volonté. Elle l'exige d'autant plus que par son objet et son mode d'exécution, le travail est moins attrayant. Donc l'homme est capable de s'obliger à un travail pas très attrayant parce que derrière, il se réalise. En produisant un objet, en travaillant, en transformant le monde, eh bien, il se reconnaît dans ce qu'il produit, on verra à quel point c'est important. Voilà. Donc l'homme s'humanise en quelque sorte, déjà à un niveau très général, par son travail, en se reconnaissant dans le fruit de sa production, en y voyant là sa marque à lui, et la marque de son esprit, de sa conscience. Donc là, évidemment, Marx reprend un peu Hegel, mais à part pour les fans de Hegel, j'imagine que vous ne m'en voudrez pas d'évoquer plutôt Marx. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a une société qui se fonde sur un travail qui est en fait la réalisation de projets humains. Et notamment, qui va permettre des échanges. Sachant justement que les biens que l'on produit, Marx le reconnaît encore, les biens qu'on produit, leur valeur n'est pas fondée sur leur valeur d'usage, mais bien sur leur valeur d'échange. Là encore, ça va être important pour la suite, mais je vais essayer d'aller vite. Alors, en deux mots. Il y a des choses qui ont une forte valeur d'usage, par exemple l'eau, l'air, etc., mais qui n'exigent pas du tout de travail. Dans ces cas-là, évidemment, au niveau de la valeur d'échange, c'est zéro. Si j'essaie de vous vendre de l'air, évidemment, ça vous fait rire. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment très, très crédule. Bon, d'accord, vous me direz, il y a des barres à eau. Après, on peut modifier, à cause de la modernité exquise, les formes raffinées d'arnaque. Mais voilà, dans les barres à eau, on vous vend plein de types d'eau différents, et comme vous êtes snob, eh bien, vous essayez telle eau qui vient de tel endroit, en faisant semblant de reconnaître une différence majeure avec telle autre eau. Bon, vous me direz, on peut les reconnaître, l'épare par exemple, on reconnaît au fait que c'est absolument dégueulasse, mais à part ça, bon, un bar à eau ne semble se justifier que dans des cas exceptionnels, sauf si vous voulez en parler, à ce moment-là, vous reviendrez au moment des questions, parce que je vois que certains, ça a déjà commencé à les... Alors, je retire ce que j'ai dit sur les barres à eau. Bien. Mais en général, voilà, pas de valeur d'échange quand c'est un bien qui a une grande valeur d'usage, mais qui ne nécessite pas de travail, évidemment. À l'inverse, quand il faut faire de gros efforts pour avoir de l'eau potable, par exemple, hein, dans des pays où on manque d'eau, alors à ce moment-là, évidemment, les enjeux changent, et puis l'eau peut atteindre un prix élevé. Et d'ailleurs, là, je ne veux pas me faire prophète, mais si on envisage, comme beaucoup de scientifiques, peut-être la totalité l'envisage eux-mêmes, une guerre de l'eau à un moment donné, un moment prochain, c'est-à-dire que quand les nappes phréatiques seront complètement polluées, quand il deviendra très cher d'épurer en quelque sorte les eaux, bon, etc., quand l'eau manquera, parce qu'on prend trop de douches et pas assez de bains, bon. Et bien à ce moment-là, évidemment, peut-être qu'on verra de nouveau les enjeux se transformer. En tout cas, chaque marchandise n'a de valeur que par le temps de travail qui a été nécessaire à sa production, à son transport, à son conditionnement, à son exposition, à sa vente, et bien sûr aussi en fonction de sa rareté. Ce qui veut dire que la société, ça va d'abord être ça. C'est pour ça que la société semble indissociable du travail, une sorte de répartition des tâches qui fait qu'au final, ben, on finit par tout s'en sortir. Idéalement, c'est à peu près ça. Une société, c'est fondée sur une distribution des tâches qui repose sur des échanges équitables. Des échanges équitables, c'est-à-dire des échanges qui peuvent valoir entre deux objets et donc entre deux temps de travail équivalents. Bien sûr, c'est complexifié par l'idée que ça passe par la monnaie, et comme on le verra, par la mondialisation et par tout un tas de choses, évidemment. Mais idéalement, c'est à peu près ça. Idéalement, c'est à cela que s'évalue la valeur d'un objet, plus il est investi d'efforts et tant de travail humain, plus il doit avoir de la valeur. Bon. Mais, vous me voyez vite venir, cette équité dans les échanges, c'est plus souvent un idéal qu'une réalité. Et en général, il y a des disproportions qui vont bien sûr se faire entrer. Donc, alors j'avais vu cette théorie, je ne sais plus très bien où, mais j'avais trouvé ça assez intéressant. On m'avait parlé, à un moment donné, dans un essai, de crédit social. C'est-à-dire que si on envisage les choses d'une façon un petit peu extérieure, on peut tout à fait voir la richesse, l'argent, comme du crédit social, c'est-à-dire une représentation symbolique d'un certain droit au travail ou au fruit du travail d'autrui. C'est-à-dire qu'en gros, en travaillant moi-même, bon, donc je suis prof, vous l'avez compris, je fais mon cours, je reçois un chèque à la fin du mois, et avec cet argent, eh bien, je peux le réinvestir en achetant le travail de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tiens, j'ai une fuite, j'appelle mon plombier, et une partie de mon salaire sera une sorte d'argent qui représente un petit peu ce que la société tout entière me doit, et ce que je peux m'offrir au niveau du travail d'autrui. Parce que tout ce que j'achète, finalement, de ce point de vue-là, est le fruit du travail de quelqu'un. Ou d'une communauté, etc. Donc, mon capital, ce que je gagne, ce que j'accumule, me servira en quelque sorte, par la monnaie, par l'échange, à acheter un certain travail humain, le travail de quelqu'un d'autre, qui lui-même pourra utiliser l'argent que je lui donne pour, en quelque sorte, le réinvestir et acheter le travail d'encore quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà, donc, pris en ce sens, c'est comme un système de dette, mais qui se justifie du moment que les échanges restent équitables. Donc de ce côté-là, bon, Il y a déjà deux niveaux qu'on a analysés et qui semblent justifier complètement la présence du travail au sein d'une société. Et à ce moment-là, pour l'instant, on ne voit même pas pourquoi la question. Peut-on concevoir une société sans travail ? Évidemment pas, puisque, d'une part, c'est ce qui m'humanise, c'est ce qui me fait sortir de ma condition animale, comme on l'a vu avec Marx, en me donnant des projets à réaliser et donc en marquant le monde de ma conscience. Les routes, les immeubles, tout ça, c'est de la conscience humaine qui a été, en quelque sorte, matérialisée. D'autre part, le travail permet des échanges équitables, une redistribution, et puis, du coup, non pas l'exploitation du travail de quelqu'un d'autre, mais la possibilité de bénéficier du travail d'autrui. Et puis, il y a bien sûr une troisième raison qui justifie grandement la valeur en elle-même du travail, c'est le rôle formateur, nous l'avions dit, de l'activité professionnelle. C'est-à-dire que le métier a une grande importance à un niveau psychologique, puis au niveau, bien sûr, de la place sociale qui nous permet d'assumer. C'est-à-dire que tenu et assuré par les obligations de sa tâche, eh bien, l'individu est amené à dépasser ses inclinations premières, à se constituer vraiment comme un individu social. Bon, je laisse la parole à Alain, qui, sur ce point, me semble très éclairant, un très beau texte, je trouve. Je l'ai un peu découpé parce qu'il est un peu long. S'il est trop long, vous me faites un signe. Bon. Vous avez l'habitude, pour certains. La fonction est une cérémonie continuée. Le métier aussi, quoique cela paraisse moins. Tous les hommes sont fouettés par cette idée bienfaisante. Si je n'y suis pas, qui le fera ? Ainsi, l'on se trouve défini et obligé envers soi. La peur, en toutes circonstances, vient de ce que l'on n'a plus d'ordre. Qui ne reçoit pas d'ordre et qui ne participe pas à un ordre agissant ne saura jamais ce qu'il peut. J'ai lu le récit d'un sauvetage en mer. Les marins du bateau de secours étaient au cabaret, occupés à chanter et à boire, bien loin de tout héroïsme. La porte s'ouvre. Quelqu'un annonce qu'un bateau est en péril. Ils se lèvent, ils courent et sont l'instant d'après à leur beau travail. C'est être assuré de soi. Le chirurgien ou le pompier sont vifs et prompts. Mais cela n'est pas commun sans le pli du métier et le chemin du devoir tracé par le savoir-faire. L'homme est trop intelligent, communément, pour savoir ce qu'il aime. Il faut à notre espèce, disait Clotilde Devaux, qui était en gros la muse d'Auguste Comte. Quand je dis la muse, c'est qu'il a toujours essayé de coucher avec elle, mais qu'il n'a jamais réussi. Il faut à notre espèce, disait Clotilde Devaux, des devoirs pour faire des sentiments. En ces sommations du métier, le caractère s'apparaît à lui-même, mais surmonté, mais relevé, mais redressé. Le courage, dans le sens plein, naît de ces expériences, car les apparences invitent fortement l'homme à redescendre. Mais en revanche, le métier le frappe tous les jours au même point. L'épreuve le consacre. Celui-là, quand il dit « moi », dit quelque chose. Et puisque la corrélation est évidente entre individu et société, il faut appeler individu le caractère élevé et mis en forme par le métier ou la fonction. Donc en gros, voilà, pardon, fin du texte, fermez les guillemets, beau texte qui nous montre, alors on pourrait dire très patriotique si on est cynique, mais en tout cas très beau texte qui montre qu'effectivement on se reconnaît dans une fonction sociale, notre valeur, notre envie de nous lever le matin se retrouve dans le travail. Et c'est bien ce que je veux percevoir moi-même, si je prends encore moi comme exemple, mais pourquoi pas, j'ai l'impression de faire un travail utile, j'ai l'impression d'éveiller les consciences, j'ai l'impression que sans moi, le monde se péricliterait, en quelque sorte. Bon, et bien sûr, c'est qu'une impression, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que malade et irremplacé, les autres font très bien notre boulot. Mais on essaye de se dire qu'on est irremplaçable. Et comme le disait la mère d'un ami, le cimetière est rempli de gens irremplaçables. Bon, la mère d'un ami était très cynique. Bon, donc voilà, trois très bonnes raisons. Et bien sûr, il y a du travail dans lequel on se reconnaît et dans lequel on s'épanouit, bien sûr. Sauf que, et là on va arriver à une transition importante. Ne suis-je pas trop long ? Ça va. Sauf que, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est cette fameuse pénibilité du travail, et qui a toujours été clairement reconnue par l'homme, en témoigne par exemple sa représentation mythique. Vous savez que la sortie du jardin d'Éden dans la Genèse, c'est d'emblée, alors la première chose que Dieu nous dit pour nous punir, bon, on resitue le truc, hein. Bon, vous savez tous, on a péché en désobéissant à l'interdit divin qui nous disait, en gros, ne bouffe pas du fruit défendu. Il le disait un peu plus proprement, voilà, l'homme mange, croque, enfin, la tentatrice, la femme, présente à l'homme un fruit qui n'est même pas une pomme, qui est un fruit, on ne sait pas ce que c'est. L'homme la croque benoîtement, il se rend compte qu'il est nu. Bon, bref, Dieu s'aperçoit, à mon avis il le savait sans même avoir besoin de le regarder, que l'homme lui a désobéi, il le chasse d'Éden et il lui dit « Tu gagneras ta vie, en gros, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » C'est-à-dire tu travailleras. Et pour vous, mesdames, tu enfanteras dans la douleur. Bon. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça le travail. Bon, je ne sais pas, ça vient juste de... Mais en tout cas, bon, tu travailleras. Le premier truc, c'est... Bon, voilà, vous êtes sortis du jardin d'Éden, vous êtes tout piteux, vous êtes tout honteux, et on vous dit, eh ben maintenant, tu as travaillé. Ça montre bien quand même comment on se représente le travail. Et je ne parle même pas, évidemment, d'origine étymologique, que beaucoup connaissent, hein, tripalium, qui veut dire trois pieux, qui était un peu un instrument de torture à usage des bœufs, pour les faire avancer. Ce travail, ça vient de là. D'un instrument de torture. Il paraît même qu'on s'en est servi sur des hommes pour leur arracher des informations. C'est quand même un peu salaud. Mais voilà, le travail, c'est d'abord quelque chose, au minimum pénible, au maximum une torture infinie. Alors pourquoi est-ce que c'est une torture ? Pourquoi est-ce qu'on lie spontanément travail et pénibilité ? Tout simplement parce que le travail, c'est pas une tendance naturelle chez l'homme. Parce que le travail impose d'abord une discipline, des rythmes, souvent répétitifs, contraignants, parfois contraignant pour le corps, souvent contraignant psychologiquement, et même si on aime son travail, le fait d'être condamné à devoir toujours travailler à heure régulière, de devoir toujours aller au-delà de l'effort, c'est-à-dire que des fois on n'en peut plus, on est fatigué, on aimerait une pause mais c'est plus possible, eh bien fait que même dans un travail épanouissant, on est toujours dans une situation d'obligation et de fatigue. Et d'ailleurs, on ne peut pas arrêter le travail qui reste une obligation économique. On le verra un peu plus tard. Hannah Arendt le signale bien. Le travail correspond au renouvellement des produits de consommation. Et il se trouve, d'ailleurs, qu'on est des gros consommateurs. Donc chez nous, c'est aussi le renouvellement de la vie elle-même. Imaginez d'un seul coup qu'on s'arrête de travailler. Moi, déjà, je serais tout malheureux de ne plus trouver mon frigo rempli et devoir aller chasser moi-même. Vu comme je suis doué pour la chasse, j'imagine, c'est difficile. Bon. Donc, évidemment, il est très difficile d'envisager comme ça, d'un coup, un arrêt du travail. C'est même pas... Voilà. Bon. Parce que le travail, voilà, c'est, même dans le cas des métiers passionnants, quelque chose qui se fait toujours, pour reprendre un peu l'expression consacrée de Freud, quelque chose qui se fait par-delà le principe de plaisir. C'est une soumission à la nécessité. Et donc, on en arrive, bien sûr, à un deuxième moment qui dépeint bien le travail d'une façon un peu plus sombre, puisque, en plus, le travail humanisant, comme on a essayé de le dépeindre, c'est ce qu'on ne reconnaît pas forcément dans la société moderne. Donc maintenant, on va essayer de parler d'un travail à partir de la crise de la société moderne et du commerce mondialisé. Et on va voir à quel point on peut considérer que le travail s'est dénaturé. Alors, déjà, première transformation majeure, qu'en général, souvent les philosophes s'accordent en tout cas à reconnaître, c'est qu'il va se passer quelque chose d'absolument nouveau au moment où on va commencer à se passer, on va en tout cas remplacer l'outil par la machine. Alors l'outil, en général, qu'est-ce que c'est ? C'est le prolongement de la main de l'homme, c'est quelque chose qui va pallier ses insuffisances, hein, les insuffisances du corps humain. Il est ce qui, l'outil, c'est ce qui va d'abord essayer de rendre le corps plus puissant. Le marteau, c'est ce qui me permet d'enfoncer un clou, c'est ce qui me permet, etc. Alors qu'à la main, évidemment, c'est plus difficile. Alors pour moi, c'est même impossible. Bon, d'ailleurs, même avec un marteau, généralement, j'y arrive pas. Mais peu importe, c'est pas le problème. Le problème, c'est pas moi. C'est qu'au départ, l'outil, c'est ce qui remplace les carences du corps humain. Mais la transformation radicale, c'est l'ère du machinisme, c'est l'entrée dans le monde industriel, où là, il n'est même plus question de prolonger le corps humain, puisqu'il est question de le remplacer, tout simplement, face à des machines infiniment plus performantes, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe. Beaucoup plus performantes, puisque les machines, vous en conviendrez, ne connaissent pas vraiment la fatigue, elles peuvent parfois s'enrayer, bon, Elles n'ont pas d'aléas psychologiques. Les machines sont rarement enceintes. J'essaie de me placer du point de vue de l'employeur. C'est pas du tout de dire que... Bref. Les machines, en quelque sorte, vont permettre de transformer le monde, mais vont tellement le transformer qu'on va aboutir à une révolution industrielle qui n'est pas en soi un problème, mais qui va tellement transformer psychologiquement le travail, notamment, et pas seulement psychologiquement, que ça va entraîner évidemment des problèmes. Ça, c'est la première phase, parce qu'on pourrait même dire qu'on est au-delà. Là, je vais reprendre une analyse célèbre de Marx, mais on pourrait aussi la prolonger en se disant que par-delà l'ère du machinisme, il y a bien sûr l'ère informatique qui transforme à nouveau la donne. Mais en tout cas, que constate Marx ? Eh bien, qu'il y va y avoir une révolution industrielle qui va transformer les situations humaines, et qui n'a pu arriver qu'à deux conditions. D'abord, elle est arrivée relativement récemment, parce qu'il a fallu une avancée technologique suffisante pour créer des machines nécessaires à la production industrielle, tout simplement. Mais il a fallu aussi, et c'est ça qui va être très important, une concentration suffisante du capital pour justement permettre ces constructions de machines. Donc, ce que va commencer à analyser Marx, mais qui trouve encore une grande valeur aujourd'hui, on verra pourquoi, c'est qu'il y a, pour lui, alors bon, c'est très binaire comme analyse, hein, dans un sens, il y a d'une part le capital ou les capitalistes, c'est-à-dire la population, pour simplifier, qui est détentrice d'une part importante de ce que j'ai appelé tout à l'heure le crédit social d'une société, c'est-à-dire qu'en gros, elle va pouvoir faire travailler un certain nombre de personnes. Donc d'un côté, on a... on pourrait aussi appeler ça le patronat, bon, qui peut faire travailler donc une population moins riche, que Marx appelle le prolétariat, et qui n'a pas d'autre choix pour gagner sa vie que de se faire employer par des capitalistes. Bon. Alors là, on a une transformation radicale, parce que déjà, on a une rupture avec ce que Marx reconnaissait dans le monde artisanal, dans les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire que dans le monde artisanal, on avait des artisans qui créaient un objet de A à Z et qui, évidemment, là, ça allait complètement avec ce qu'on disait tout à l'heure, qui se reconnaissaient dans son travail, qui étaient fiers de son travail, qui faisaient quelque chose qui lui ressemblait, qui avait de la valeur, qui avait du style. Et puis voilà, avec les transformations dues aux machines, dues au patronat, dues à plein de choses, eh bien, progressivement, l'ouvrier va vendre d'abord son temps et sa force de travail, et non plus un savoir-faire. Il va être d'abord un geste. Donc, dans le monde artisanal, le travailleur faisait un objet complet, et puis d'un seul coup, progressivement, on exige du travailleur qu'il ne soit qu'un geste, qu'il ne soit plus qu'une fonction, un rouage dans l'entreprise, en quelque sorte. Alors d'une part, déjà, ça va créer une situation qui fait que l'ouvrier va être aliéné à son travail. Enfin, il va être aliéné, c'est-à-dire qu'il ne verra pas le sens de son travail, il ne va travailler que pour gagner sa vie, et en quelque sorte, il va s'épuiser à la tâche sans se réaliser humainement. Il ne se reconnaîtra pas dans le fruit de son travail quand vous devez faire un geste. Bon, voilà. Alors, bon, vous allez me dire, mais ça, c'était l'ouvrier au moment de l'avènement de la révolution industrielle, etc., ou à la fin du 19e, éventuellement début 20e. Enfin, c'est exactement ce qu'on reconnaît aujourd'hui. Hein. Prenons la centrale d'appel, on a la même chose. Centrale d'appel, voilà, vous avez quelqu'un qui va devoir énoncer. Oui, c'est ceux qui vous appellent pour vous vendre des choses, par exemple, bon, proposer des services. Eh bien, ça sera une phrase, mais sans aucune improvisation possible. Des gens qui vont écouter ce que ces travailleurs vont faire, c'est-à-dire, ils vont vous appeler, et puis ils vont dire bonjour Madame X, bonjour Monsieur Y, blablabla. Bon, et dès qu'ils s'éloignent, s'ils veulent improviser, boum, on les rappelle à l'ordre et on essaye d'amputer une part de leur bonus. Bon. Donc il y a vraiment, à plein de niveaux différents, prenons aussi une industrie, une entreprise, le monde de l'entreprise peut ressembler aussi un peu à ce que décrit Marx, mais d'une façon plus globalisée, plus mondialisée, d'un seul coup, étant donné les exigences, les contraintes, eh bien, on va vous demander de traiter un dossier, et puis non plus seulement un dossier, mais une partie de dossier pour aller plus vite, on va répartir les tâches, et puis vous ne vous reconnaissez même plus dans votre tâche. C'est-à-dire qu'à la fin... Vous savez même plus ce que vous avez produit, puisque ce qui comptera, ce sera le rendement, et donc votre force de travail. ce qui peut aussi se traduire en langage moderne par votre investissement dans l'entreprise. Allez, prenons un exemple personnel pour changer un peu, qui me vient comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas non plus glorieux comme les exemples de Marx, mais bon, il y a eu un moment où j'ai travaillé pendant ma vie étudiante dans un magasin d'informatique. Et le soir, c'était une équipe un peu à l'américaine. Alors, c'est-à-dire que mon patron m'appelait Raph, moi je devais l'appeler Steph, et on devait tous faire des choses un peu ahurissantes. Par exemple, quand il n'y avait personne, on devait faire semblant de nettoyer nos rayonnages, même si on venait de le faire il y a 5 minutes. Au cas hypothétique où quelqu'un passe devant la fenêtre, il ne faut pas qu'on ait l'air de discuter entre nous, il faut qu'on ait l'air toujours au travail. Donc cultiver le semblant de travail. Bon, ça c'est rien, pourquoi pas. Sauf que le soir, tous les soirs, au nom de l'investissement dans l'entreprise, il fallait faire le ménage, faire les tâches, etc. Plein d'autres tâches, ce qui fait qu'on avait facilement, sans mentir, pour 1h30, 2 heures de travail supplémentaire tous les soirs. Donc il y a un moment où je me suis un peu plaint, ma femme était enceinte à ce moment-là. C'est pas la faute de ma femme, je sais pas dire ça. Mais j'avais envie un peu de la voir, puis j'en ai un peu marre. Donc à un moment, j'ai dit, ça va bien, mais j'en ai un peu marre de faire du bénévolat. Eh bien, toute l'équipe s'est réunie, le patron s'est complètement énervé en disant, voilà, Raphaël fait du bénévolat. Est-ce que vous considérez que ce que vous faites le soir, c'est du bénévolat? Alors tout le monde a répondu oui, non, pardon, sinon je me trompe. Tout le monde a répondu non, sauf moi qui continue à dire oui. Il disait non, pour nous c'est de l'investissement dans l'entreprise, c'est important, c'est une entreprise qui marche. Sauf moi qui continue à dire, ah bon, bah pour moi un travail qui n'est pas rémunéré, c'est du bénévolat. Bon alors, la petite histoire veut que, curieusement, je n'ai pas été viré, loin de là, on m'a proposé une promotion juste après. Alors pas à cause de ça, mais pour dire que ça n'a absolument aucune incidence. Mais voilà, il y a des moments où toutes les frontières s'effondrent, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de l'ordre du travail, on ne sait plus très bien. Si la motivation, c'est-à-dire faire des heures et des heures et des heures en plus, qui ne sont pas rémunérées, sont censées faire partie du travail, bon, il y a un moment où on ne voit plus très bien où ça peut s'arrêter. Enfin, peu importe, de toute façon, je ne suis pas là pour parler spécialement de moi, enfin si, je suis un peu là pour parler de moi, parce que je suis mon objet de préoccupation majeure, mais si on élargit bien sûr le problème, on se rend compte assez vite que les analyses de Marx gardent leur force, sont un peu déplacées. Peut-être que parfois elles peuvent sembler caricaturales. Qui est le patron, qui est l'employé aujourd'hui, quand il y a un échelonnage, une hiérarchie multiple. Quoi qu'il en soit, on peut garder de Marx l'analyse de l'exploitation. Du fait que l'homme, notamment, le travail est non seulement aliéné, mais il est aussi exploité. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à payer le temps de travail qu'on a essayé de légitimer au départ, c'est-à-dire la valeur du produit, le temps fourni, etc. On va finir par presser l'ouvrier, presser le travailleur jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, et on essaiera de garder finalement de son énergie que ce qui lui permettra d'aller travailler le lendemain. Bon, on en arrive à un moment où on fait travailler jusqu'à épuisement, jusqu'à ce qu'en tout cas, ce ne serait pas rentable de complètement épuiser un ouvrier. Donc on va essayer de faire en sorte, quand même, qu'il puisse revenir le lendemain. C'est à peu près, pourrait-on dire, en quelque sorte, la limite. Enfin, la limite des analyses de Marx, qu'il n'avait pas vraiment envisagé la délocalisation. Parce que c'est encore pire aujourd'hui, hein, puisque... mais j'y tiens. Tiens, une petite minute de moralisation à outrance. Le fameux pays des droits de l'homme qu'on représente, évidemment, dit que tous les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit, etc. Oui, mais on a l'impression que ça marche que quand ça nous arrange. C'est-à-dire que dans un sens, dans le pays des droits de l'homme, il n'est pas interdit non plus d'aller se délocaliser et d'exploiter des enfants, le travail d'enfants chinois, par exemple. Alors officiellement, je ne dis pas que le travail des enfants est autorisé en Chine, mais on sait très bien ce qui se passe quand même. Voilà, alors l'idée, ou alors, on a aussi, suivant les conventions européennes, vous m'arrêterez si c'est faux, on a une convention européenne qui fait qu'on peut aujourd'hui faire travailler en France un ouvrier hongrois au salaire hongrois. C'est-à-dire que s'il n'a pas de travail en Hongrie, il vient travailler en France, et puis nous, on le paye quand même au salaire hongrois, mais il vit en France. C'est les conventions européennes. Donc, le pays des droits de l'homme, oui, tous sont égaux, mais un peu moins quand ils viennent d'autres pays. C'est-à-dire qu'on tolère pour les autres ce qu'on ne tolérerait jamais pour nous-mêmes. C'est d'une banalité ce que je dis affligeante, mais c'est quand même un tout petit peu rigolo de s'en rendre compte. C'est-à-dire que les droits de l'homme, oui, mais on tolère que des entreprises... Prenons les Américains, c'est plus facile quand on prend les Américains plutôt que nous-mêmes. Bien, les Américains, voilà, avec Apple, c'est un peu ça. On va dire quand même que Apple représente une partie du salaire brut des Américains, pas du salaire, je dis n'importe quoi, mais enfin de la richesse sur le sol américain. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sait très bien ce qui se passe d'ailleurs avec Foxconn, etc. Le comble de l'ironie, c'est bien ça, et je ne caricature pas. C'est devenu un exemple caricatural, parce que c'est l'exemple majeur. Mais on a des entreprises délocalisées où les ouvriers chinois se suicidaient en se jetant des fenêtres parce que, je tiens à le dire, c'est quand même, ça montre bien que Marx n'a pas entièrement tort, parce que s'ils quittaient leur travail, ils n'étaient pas payés. C'est-à-dire, si vous n'en pouvez plus, ils avaient une pause toilette par jour. Ils travaillaient du matin au soir, mais c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, pour Apple notamment et pour d'autres, Foxconn. Et puis, du coup, ça arrivait à tel point que s'ils quittaient le travail, bon, on ne leur réglait pas leur salaire, on ne les payait pas. Alors évidemment, il n'y a pas vraiment les prud'hommes là-bas. Mais s'ils se suicidaient, on versait quand même une rente à la famille. Donc des ouvriers se sont défenestrés. Alors qu'a fait Foxconn, vous pouvez vraiment le vérifier vous-même, ben, ils ont mis des filets. Non, c'est le comble de l'ironie, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus se défenestrer. On le sait tous. Mais voilà. Les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit. Bon, à condition qu'on ferme les yeux très fort. Vous voyez l'ironie absolue. Au lieu d'essayer d'améliorer les conditions de travail, on met des filets pour ne plus être responsable de leur suicide. Bon. Bref, bon, je me suis un peu égaré. Mais on voit tout de suite, d'emblée, évidemment, que les paroles de Marx ne sont pas complètement absurdes. Le travail est exploité, en tout cas dans certaines circonstances. Le travail est aliéné. Hein, on peut imaginer que souvent, on produit des choses qui ne nous concernent même plus. On ne devient qu'une force de travail et en plus, une force de travail qui s'épuise à la tâche. Bien. Voilà en gros ce que nous dit ici, évidemment, Marx. Bon, mais il donne une bonne nouvelle. La surproduction, la concurrence acharnée, l'obligation de toujours investir dans de nouvelles techniques, etc. La concentration du capital entre de moins en moins de mains, vont conduire la société à une crise, nous dit-il. Boum, ça tombe bien. Alors, ça ne veut pas dire que Marx a raison sur toute la ligne, hein, parce que pour lui, après, ça va être un éveil de conscience qui va amener progressivement... Alors, bon, ça, c'est la version douce. Ou alors, une révolution sanglante par le prolétariat, peu importe la version de Marx que vous choisissez. L'idée, c'est que, au bout d'un moment, le prolétariat portera l'espoir d'une transformation radicale de la société tout entière et permettra d'instaurer une égalité entre les hommes. Alors là, on n'en est pas vraiment là pour l'instant, on est dans la période de crise. Il faut voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, on est dans la période de crise où certains dénoncent le capitalisme et d'autres disent il faut l'améliorer. Bon. Quoi qu'il en soit, revenons à des choses dans un sens moins grave. Tout cela rejoint un peu l'analyse d'Anna Arendt. Là encore, je vais essayer de ne pas aller trop loin parce qu'on a quand même beaucoup de choses à régler encore en troisième partie. Mais que nous dit Anna Arendt? Eh bien que le grand problème, c'est l'idée que, suite à la Seconde Guerre mondiale, eh bien la production industrielle fait qu'on est passé à une production de masse qui s'est accompagnée évidemment d'une consommation de masse. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a des objets qui sont produits par l'industrie, qui sont des objets standardisés, qui sont des objets sans âme. Donc Arendt va distinguer l'objet artisanal, on l'a déjà dit, hein, qui est apprécié, dont on prend soin, qui permet de contribuer à créer un monde stable, c'est surtout ça, dans lequel on se reconnaît. Eh bien, ça va être remplacé par des objets standardisés, produits en série, et dans lesquels on ne se reconnaît plus du tout. D'ailleurs, la preuve, si vous regardez les objets standardisés, mais j'en fais complètement partie, hein, j'ai mon salon, c'est Ikea. C'est vraiment, vous ouvrez le catalogue Ikea, vous avez mon salon. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai tout refait en Ikea, super, mais en soi, c'est très beau, hein. Je ne dis pas qu'Ikea, c'est pas bien, je dis juste que quand je vais chez des amis, j'ai le même salon que chez moi. C'est ça qui est gênant. C'est qu'en général, au final, on ne se reconnaît plus là-dedans et on finit par avoir honte. L'objet standardisé, même s'il est pas laid, hein, les designers d'Ikea savent ce qu'ils font, eh bien, vous arrivez à un moment où vous ne vous reconnaissez pas dans vos choix, puisque finalement, tout le monde fait les mêmes que vous. Sauf les irréductibles qui vont chez Conforama, mais c'est bon. Dans un sens, on les plaint. Alors voilà, je me permets, du coup, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que j'ai trouvé là une sorte de métaphore extraordinaire avec les dessins de mes enfants. Alors là, pour moi, c'est l'exemple imparable. Qu'est-ce qui se passe avec les dessins de mes enfants? Ça m'est apparu tout à l'heure, en réfléchissant à la question. Ah oui, c'est vraiment un exemple absolument inédit. J'ai toujours été un peu choqué par ça. Mais j'avais jamais conduit l'analyse jusqu'au bout. C'est-à-dire que fait l'enfant avec son dessin? Au départ, l'enfant, votre enfant, fait un petit truc très soigné. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais comme il commence à dessiner, on est très content et on le félicite. Il a fait un truc comme il pouvait, un monsieur patate. Voilà, il a sué sans et haut, il a mis des cheveux, il a mis 6 bras, il n'a pas très bien compté, etc. Mais enfin, bon, c'est un monsieur patate, c'est très bien, c'est un début, c'est prometteur, c'est tout ça. Et ça a été fait dans la douleur. Et il est tout fier de vous le montrer, vous êtes tout fier de dire « Oh, c'est merveilleux, c'est beau, c'est superbe !» L'enfant est ravi. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça, c'est la première étape. Le premier dessin bien fait, en tout cas fait avec soin. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il a vu? Votre contentement. Alors il va essayer d'en faire plein. Il fait plein de dessins parce qu'il veut à chaque fois renouveler le contentement. Mais il se rend compte que même quand il fait un petit gribouillis un petit gribouillis bête, à trois traits, vous dites la même chose. Ah, oh, c'est bien mon chéri, vous avez peur de le vexer. Donc il ne va pas faire des dessins soignés puisqu'il a la même chose en faisant ça. Bon, il fait trois petits trucs, là, il dit, tiens, regarde, oui, oh, c'est bien, bon. Et après, il exige que vous les mettiez sur votre frigo. Bon, alors vous avez plein de dessins moches sur votre frigo. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un joli dessin, puis après, il ne s'embête plus à le faire parce qu'il voit que la réaction est la même. Vous êtes piégé. Alors, voilà, et troisième étape. Donc là, on a déjà la première étape. Hein. L'objet artisanal, c'est le premier dessin. Ensuite, c'est l'objet standardisé. C'est-à-dire, quand il a vu la réaction, il les produit en série. Troisième étape, qu'est-ce qu'on a? Ça devient un objet de consommation. Il vous les vend. Après, il fait son petit magasin, vous n'avez jamais vu ça? Où il les vend quelques centimes. Mais si vous ne les achetez pas, vous êtes un monstre. Quoi? Alors que c'est des dessins tout moches. Alors vraiment, là, quand il les vend, c'est qu'il a fait trois trucs. Hein. Tu l'aimes pas, mon dessin? Bon, si, tiens, prends tes 2 centimes. Bien. Pardon? Non, mais les dessins ne sont pas tous moches. J'essaie de caricaturer un peu. Certains dessins sont beaux. Alors, on peut le dire. Alors, quand on a des parents courageux, c'est... En fait, généralement, ça arrive au deuxième ou au troisième. Quand on s'est fait avoir une fois, on se dit, non, ça a coûté trop cher. Après, il y a des réductions d'urgence, parce que quand le petit dernier vous fait les petits dessins moches, la grande, qui sait mieux dessiner, va vous essayer d'en faire elle aussi. Généralement, elle les soigne un peu plus quand même, parce qu'elle voit bien que c'est plus le... Ce qu'elle perd en côté mignon, elle doit le gagner en crédibilité. Sinon, elle a l'air complètement idiote à 15 ans, à vous montrer 3 traits et à essayer de vous les vendre 15 €, évidemment, c'est difficile. Parce que les tarifs sont échelonnés aussi. Bon, bref. Sur votre salaire, bon, indexé sur votre salaire, mais surtout sur la pseudo-compétence du dessinateur. Mais bon, voilà, on a souvent ça, hein, première étape, on le fait bien, deuxième étape, on le fait en série, troisième étape, on le vend, et on essaye de faire en sorte qu'on vous piège. Bon. C'est à peu près ce que dit Arendt en disant que voilà, le produit, voilà, l'œuvre faite à la main, va se transformer en un produit qui n'exige même plus véritablement de savoir-faire, sauf peut-être à l'origine quand on a fait les plans. Hein. Mais ça va se coupler avec, là déjà, premier enjeu existentiel, avec un problème au niveau de l'existence. C'est-à-dire que, eh bien, on va sans arrêt changer d'objet, on ne va plus, ça va, le monde va perdre de sa stabilité. D'ailleurs, on le voit bien, on change sans arrêt de préoccupation, on change sans arrêt de truc, on change sans arrêt de télé, alors qu'elle va très bien, mais elle n'est pas 4K. On change de Nespresso, parce que quand même, les Pixies, elles sont vachement plus jolies, etc. On n'en a pas besoin, mais on change. On a besoin de changer, peut-être, si on suit Arendt, est-ce aussi parce qu'on n'arrive pas à retrouver dans l'objet quelque chose qui nous satisfait vraiment. Donc on le multiplie, donc on essaye, mais bon, comme on échange un objet produit en série par un autre objet produit en série, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors, voyons ce qu'elle dit elle-même, parce qu'elle le dit mieux que moi. Avec le besoin, c'est dans Conditions de l'homme moderne, avec le besoin que nous avons de remplacer de plus en plus vite les choses de ce monde qui nous entoure, nous ne pouvons plus nous permettre de les utiliser, de respecter et de préserver leur inhérente durabilité. Il nous faut consommer, dévorer pour ainsi dire nos maisons, nos meubles, nos voitures, comme s'il s'agissait de bonnes choses de la nature qui se gâtent sans profit, à moins d'entrer rapidement dans le cycle incessant du métabolisme humain. Les idéaux de l'homo faber, fabricateur de monde, la permanence, la stabilité, la durée, ont été sacrifiés à l'abondance idéale de l'animal laborans. Bon, j'avoue que j'ai un doute, je ne sais jamais si on dit l'animal laborans ou la laborans, suivant la façon dont on aime prononcer le latin. Vous corrigerez vous-même. En tout cas, voilà. Le produit remplace l'œuvre, hein, et, ajoute-t-elle d'une façon presque cynique, nous vivons dans une société de travailleurs parce que le travail seul par son inhérente fertilité, a des chances de faire naître l'abondance. Et nous avons changé l'œuvre en travail, nous l'avons brisée en parcelles minuscules, jusqu'à ce qu'elle se prête à une division où l'on atteint le dénominateur commun de l'exécution la plus simple, afin de faire disparaître, devant la force du travail, l'obstacle de la stabilité contre nature, purement de ce monde, de l'artifice humain. Ok, c'est un peu difficile à suivre. Ok, c'est un peu dur. Bon, mais la traduction, je vous l'ai déjà donnée, au final, on arrive à une production standardisée dans laquelle on ne se reconnaît pas, donc qui a aussi une valeur existentielle. C'est un monde qui change constamment et qui appelle le changement. Le monde des choses issues du monde industriel est un monde sans qualité. Alors, ne me lancez pas sur le sujet de l'informatique, parce que si vous me lancez sur Facebook, etc., j'essaierai aussi de vous montrer à quel point c'est un monde sans qualité. Mais je vais éviter, parce que je le fais à peu près à chaque fois. Donc, pour l'instant, on va en rester à Marx et à Arendt. Sinon, je vais encore me transformer en vieil imbécile qui ne connaît rien aux nouvelles technologies. Bien, alors, évidemment, tout cela est très noir, tout cela est très sombre, mais tout cela est insuffisant. Parce que le travail n'est peut-être pas en soi critiquable, cependant, malgré tout, eh bien, on va quand même essayer d'analyser plus profondément au niveau des enjeux existentiels ce qu'il va entraîner. Le travail n'est pas forcément en soi pour autant critiquable, mais on va dire que la dénaturation qu'a provoqué cette espèce de société de consommation, notamment, pas seulement, et aussi les pressions d'échanges à un niveau international, etc., eh bien, tout cela va évidemment jouer sur un rôle important sur nos vies, dans nos vies. Et donc, on passe à cette troisième partie qui, à mon avis, sera peut-être la plus essentielle, puisqu'elle va vraiment situer les choses d'une façon à partir des débats qui sont un peu les nôtres aujourd'hui. Donc, troisième partie, on va parler en gros du travail et de l'existence, et on va essayer d'articuler tout ça autour de deux débats contemporains. Alors, d'une façon générale, on peut déjà montrer le problème en ces termes. Si on suppose que les machines, cela dit, permettent d'éviter, soyons un petit peu positifs par rapport à notre monde moderne, et si on admet que les machines permettent aussi de remplacer un certain nombre de tâches ingrates, qu'il revenait auparavant à l'animal, justement pas à l'homme de faire, eh bien, on peut se dire que finalement, on va augmenter la productivité et ça pourrait amener à plus de à quelque chose de plus. C'est toute la question. Qu'est-ce qu'on va faire de cette augmentation de la productivité? Est-ce qu'il va falloir justement en profiter pour augmenter la richesse globale de la société? Ou est-ce qu'il va falloir en profiter pour dégager du temps libre? C'est ça la question. Est-ce qu'on va essayer de vivre un peu encore mieux au niveau de nos vies matérielles? Ou est-ce qu'on va plutôt essayer de travailler moins en stabilisant un petit peu ce qu'on a déjà, pour essayer en revanche d'avoir plus de temps pour nous? Ça va être un peu une question générale. Alors, pour enchaîner sur une note positive, on peut revenir aussi à ce que disait Bergson. Alors Bergson, dans son optimisme extraordinaire, disait dans les deux sources de la morale et de la religion que, justement, pour lui, au départ, bon, il y a eu un petit raté, hein, il est bien d'accord, mais finalement, cette production, l'augmentation du niveau scientifique, l'augmentation, bref, le remplacement de l'outil par la machine a du bon. C'est, nous dit Bergson, notez l'optimisme, ça va être le moment où, après que l'homme a fait n'importe quoi, c'est-à-dire exploiter l'homme, bon, eh bien c'est le moment où l'homme va se recentrer sur les vraies valeurs. Les machines, on va leur laisser le travail ingrat, et l'homme va pouvoir du coup se spiritualiser. Voilà ce que nous dit Bergson. C'est-à-dire que le temps disponible, il va s'en servir pour autre chose, du coup, pour les vraies valeurs humaines, pour se cultiver, pour s'améliorer. Bon, le problème, c'est qu'il a écrit ça en 1920, corrigez-moi, enfin en tout cas au début du XXe siècle, et qu'on attend toujours cette vague de spiritualisation. Pour l'instant, on est encore dans le raté. Mais on peut aussi imaginer que ce sera la suite. Cependant, il y a quand même un problème. Oui, parce que mon optimisme a duré à peu près 30 secondes et demie. Pardon, maintenant je reviens sur une note négative. Alors, premier problème, déjà, c'est... Alors, je ne vais pas essayer d'être trop long là-dessus, parce que je vois que l'heure tourne, mais c'est la différence entre... Justement, est-ce qu'on est encore capable de faire quelque chose de notre temps libre? Anna Arendt, encore elle, nous mettait en garde et nous disait que nous vivons une époque contraire à la cité grecque, est totalement même contraire, c'est-à-dire que l'homme moderne n'est plus capable que de divertissement et de vacances. C'est la différence entre le loisir grec et les loisirs modernes. Le loisir grec, c'est quoi ? Eh bien, voilà, les Grecs, c'est superbe, considéraient que la nature de l'homme ne doit pas l'amener à travailler avec son corps, faire des tâches ingrates, etc., mais à cultiver son âme. Et donc, le loisir, le moment où on ne travaille pas, c'est pas le moment où on perd son temps, où on se divertit. C'est le moment où on se cultive, pour un Grec. Bon. Alors, vous allez me dire, on y reviendra, que oui, mais ça marche mieux quand on a des esclaves, dans ces cas-là. Parce que les Grecs, c'était un peu ce qui leur arrivait. C'est-à-dire que nous, on idéalise l'homme raffiné, grec, qui se cultive. D'accord, bon. Mais derrière, évidemment, il y a quand même des gens qui doivent travailler. Alors, si on suppose qu'aujourd'hui, c'est plutôt les machines, oui, il y a quand même des gens derrière les machines. On peut imaginer que c'est pas si simple que ça. Mais voilà, ce que dit Arendt, en revanche, c'est que les hommes, aujourd'hui, ne savent plus quoi faire, justement, de leur temps libre, puisqu'ils s'épuisent. Alors déjà, en plus, aujourd'hui, à essayer de trouver un emploi. C'est encore autre chose, on y reviendra. Mais quand bien ils en ont un, ils doivent récupérer. Ils doivent récupérer, ils sont épuisés, ou alors ils essaient justement de se divertir, c'est-à-dire de penser à autre chose. Le travail les a préoccupés la majeure partie de leur journée, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils regardent la télé. Ou ils vont sur Internet, peu importe, mais enfin, ils font autre chose. Bon, c'est pas ce que dit Arendt, hein. Internet, la télé, c'est pas trop son truc, mais en tout cas, ce qu'elle dit, et il me semble que c'est tout à fait vrai aussi, c'est on peut libérer du temps l'homme de la pression du travail, lui donner du temps libre, mais est-ce qu'il saura quoi en faire ? C'est travail et travail aussi, il y a loisir et loisir, comme je viens de vous le dire, il y a travail et travail. Est-ce que finalement, vous seriez prêt, vous rentrez d'une journée de travail ? Est-ce que vous êtes prêt à vous plonger dans un bouquin de philo pour vous détendre, pour cultiver votre âme ? Alors moi, oui, glorieux que je suis. Et en même temps, c'est mon travail, donc vous me direz, c'est facile. Mais voilà, c'est tout le problème. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Donc, en gros, ça c'est important, parce que ça veut dire que libérer l'homme du travail, c'est autre chose que de libérer du temps de travail. Il faudrait que les hommes arrêtent d'être pris complètement, constamment, par leur vie professionnelle. Mais ça veut dire aussi, à ce moment-là, que l'homme doit changer carrément son rapport au monde. Et c'est là que j'arrive à un moment essentiel. Bien. C'est Heidegger. Encore lui. Bon, d'accord, il était nazi. Bon, on va pas reprendre le débat. Oui, parce qu'il l'était, là, je crois qu'il n'y a plus de doute. Hein, mais... Et pas seulement sympathisant nazi, ce qui ne le rend pas beaucoup plus sympathique, d'ailleurs. Mais Heidegger a écrit au moins un livre, pour moi, beaucoup de livres absolument géniaux, dont un monumental, Être et temps. Être étant. Être étant. Mais ce n'est pas de celui-ci que je vais vous parler, malheureusement. Mais c'est pour dire que rien qu'avec ce livre, on a de quoi en parler. Hein, on ne va pas le bannir. C'est comme si on refusait l'édition du Voyage au bout de la nuit de Céline parce que le personnage était lui-même terrible. Je ne sais pas pourquoi je reprends ce débat. Peut-être parce que je l'ai encore entendu récemment. Mais Heidegger va dire quelque chose d'absolument essentiel. Bon, j'avais tout un développement sur Ernst Junger, qui reprendra Heidegger, mais en fait, on s'en fiche. On va aller directement à Heidegger. Qu'est-ce qu'il nous dit, Heidegger ? Il nous dit qu'en fait, voilà. Alors ça, il le dit, dans une conférence absolument célèbre, La question de la technique, de mémoire, et qu'on trouve notamment dans... j'ai peur de dire une bêtise. Soit dans Essais et conférences... soit dans question au pluriel. Question, essai et conférence. Essai et conférence. C'est plus simple parce qu'en plus, question, il y en a quatre et je ne serais pas capable de vous dire laquelle. Bon, quel tome. Mais Heidegger nous dit que, la façon dont on considère le travail aujourd'hui, c'est de vous faire en quelques mots, n'est qu'un écho, n'est finalement, en quelque sorte, qu'une conséquence indirecte d'une vision beaucoup plus large que nous devrions avoir. C'est-à-dire qu'il n'aime pas du tout Heidegger qu'on définisse la modernité comme une ère atomique, parce qu'il est au moment où, évidemment, on parle beaucoup de la bombe atomique et de tout cela. Il ne veut pas non plus qu'on la définisse comme une société de consommation. Il ne veut pas non plus qu'on la définisse comme, justement, une société, post-industrielle ou quoi que ce soit. Il ne veut pas à chaque fois ce genre de petite stigmatisation, ça lui fait mal, parce que pour lui, ça, c'est que des épiphénomènes. des phénomènes dérivés. Parce qu'en fait, c'est la vision moderne de l'homme et du monde tout entière qui est à remettre en question. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Et on sera incapable, justement, de faire évoluer notre vision du travail. Et je commence par le dire, je suis absolument d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que ce que nous dit Heidegger, c'est que l'époque moderne, c'est d'abord le moment où l'homme a la volonté de se rendre disponible tout le réel. Il veut se rendre disponible tout le réel. Et on va voir que c'est même l'homme lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est que l'originalité de son analyse ? Eh bien, c'est de considérer que c'est donc tout, plus largement qu'une simple vision du travail ou d'une société de consommation, c'est une vision de l'homme qui est engagée. Comment voit-on les temps ? Alors, qu'est-ce que c'est que les temps ? C'est les choses dans le monde. C'est les choses qui sont. Eh bien, nous dit Heidegger, on réduit les temps. Déjà, on réduit, on assimile l'être à l'étang, et bon, ça c'est pour les spécialistes, et l'étang est lui-même vu comme inconsommable, quelque chose d'annexable. C'est-à-dire qu'on réduit tout le réel à un stock dans lequel on est en mesure de puiser tout ce dont on a besoin. Et c'est ça qui va définir le rapport technique de l'homme au monde. C'est-à-dire que l'homme se voit lui-même comme le fonctionnaire de la technique. Ça veut dire que l'homme moderne n'a pas d'autre objectif qu'une utilisation maximale et au moindre frais de la nature tout entière, du réel tout entier. Et donc c'est pour ça, et pour ça seulement, que le travailleur lui-même devient une simple pièce d'un vaste calcul, d'une mobilisation totale. L'homme doit être disponible, tout comme n'importe quel étang doit être disponible. On doit puiser dans le réel pour en tirer ce qu'on veut. Et cette analyse est tellement vraie, maintenant elle est devenue classique, mais elle est vraie, tellement vraie, que ça vaut à tous les niveaux possibles. Si on y réfléchit, évidemment, ça vaut pour notre défiguration de l'écosystème en général, évidemment. On puise dans la, simplement, alors au sens propre, dans la nature. Là, on puise de partout, on crée des trous dans la couche d'ozone. On, bref, je ne vais pas commencer à m'énerver là-dessus. Mais ça encore, c'est rien, j'allais dire. C'est quand même déjà quelque chose. Ça a probablement entraîné notre disparition à plus ou moins long terme, mais c'est rien. C'est-à-dire qu'on modifie aussi quoi ? Le génome. On est capable de trafiquer même dans la réalité de notre nature. C'est-à-dire que le donné naturel lui-même n'est plus quelque chose qu'on reçoit. On va trafiquer, on va transformer. Et au final, le travail, évidemment, comment pourrait-on imaginer les choses autrement ? Le travail va refléter cette vision globale d'un homme moderne qui décide de mettre le réel tout entier à sa disposition. Voilà ce que nous dit Heidegger. Alors pourquoi c'est important de le voir de cette façon ? C'est important parce que déjà, c'est une sorte de processus clos sur lui-même qui fait que l'homme est vu comme quelque chose de disponible. On voit l'homme comme disponible. Tiens, on va exploiter un peu telle ou telle région humaine, et puis comme ça, pouf, on en tirera tout ce qu'on veut, mais dans une sorte d'immanence dépourvue de sens, une sorte de nihilisme absolu. Et surtout, si on ne constate pas ça, on ne pourra jamais libérer le travail de l'aliénation et des souffrances qui l'accompagnent, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si on ne prend pas conscience du fait que l'homme a changé sa vision du monde, eh bien, on va essayer d'assainir les conditions de travail. Mais on ne réglera pas du tout le problème. C'est en gros comme si on mettait des limites au fait de pouvoir trafiquer le génome. C'est comme si on adoucissait quelque chose qui est déjà en soi à revoir complètement. C'est ce que dit Heidegger. Enfin, il ne le dit pas en ces termes, mais en gros, c'est comme si on vous disait « cloner », bon, on ne peut pas empêcher le clonage, mais on va réduire. On ne pourra vous cloner qu'à 3 ou 4 exemplaires, pas plus. Enfin, on pourrait bientôt en arriver là. C'est l'idée qu'à force de reculer les exigences, le côté intouchable, eh bien, on finit par se dire il faut transformer un peu les conditions, assainir. Non, si on assainit, on n'a rien compris, nous dit Heidegger. Parce qu'on n'a pas compris que c'est un processus global, que c'est une vision de l'homme entière. Enfin, une vision, si vous rattachez entière à vision, ou une vision de l'homme tout entier. Si vous rattachez à l'homme. C'est la conception même de l'homme qu'il convient de réinterroger. Et la thèse est audacieuse, parce que ça veut dire qu'on ne doit plus simplement s'indigner contre les souffrances du travailleur aliéné. On ne doit pas simplement lui rappeler ses droits. On doit carrément remettre en question l'époque, mais d'une façon, je vais dire un terme vulgaire, ontico-ontologique, c'est-à-dire à tous les niveaux possibles, c'est-à-dire même au niveau de l'être lui-même, de la façon de considérer l'être. Donc ce n'est pas en essayant de rendre le travail plus humain qu'on va régler la question, mais c'est vraiment en essayant de régler son compte à cette vision moderne de l'homme comme il faut rendre tout le réel disponible, y compris l'homme lui-même. Bon alors en revanche, il n'y a pas beaucoup de solutions. Vous me direz, les gens scandalisés, je disais, il ne suffit pas de s'indigner contre les souffrances. Oui, c'est, on a bien vu comme le mouvement des indignés a capoté. Hein. Voilà, on s'indigne, c'est un scandale. Mais si vous ne proposez rien, évidemment, votre indignation fait long feu. Et donc Heidegger, c'est un peu son problème. Au fond, il a parfaitement raison. Mais ce qu'il nous propose n'est pas très merveilleux. Enfin, pardon, si je me permets de... je ne devrais pas distribuer des bons points. C'est, encore une fois, c'est Paul Ricoeur qui distribue un chocolat à tout le monde. C'est le grand réconciliateur, Paul Ricoeur. Je n'essaie pas de dire là c'est bien, là c'est pas bien. Et là, vous voyez un peu le paradoxe, parce qu'en fait, j'ai distribué un bon point ou pas à Paul Ricoeur. Non, je suis vraiment incorrigible. J'ai promis d'arrêter de le faire. Donc d'habitude, je me déchaîne sur Michel Onfray, c'est moins grave. Mais... quand même pas Heidegger, quand même pas Paul Ricoeur. Alors, en revanche, en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut arrêter de considérer la technique, mais revenir à la techné grecque. Bon, et on en revient encore à cette espèce de conception grecque du loisir, du monde. Enfin, en gros, la solution de Heidegger, ça nous fait une belle jambe, c'est de donner une nouvelle place au dévoilement. Il faut voir l'homme comme celui qui va dévoiler le réel, enlever le voile, soulever le voile, laisser apparaître, en quelque sorte, et non pas, évidemment, considérer que le réel doit être à sa merci, et non pas, Et donc, il nous donne des exemples, je ne suis pas sûr que ce soit très éclairant, il nous dit que le barrage sur le Rhin est fondamentalement différent du pont sur le Rhin. Donc, c'est vraiment un appel à une sorte de modestie, un caractère humble. Mais au final, on ne sait pas très bien ce qu'on fait de notre travail. On va quand même terminer là-dessus. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec cette analyse profondément. Je pense qu'il faudrait transformer plus radicalement la vision de l'homme et pas seulement la société. Et donc, à ce moment-là, Mais le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de solutions directes à vous proposer. Sauf à... Tiens, allez, réglons son compte aussi à Mélenchon. Mélenchon veut changer complètement le système. Il nous propose de revenir vers une économie de la mer. Bon, oui. On est convaincu ou pas convaincu, le problème c'est, là par exemple, Heidegger, je ne suis pas très convaincu par cette idée de « il faut voir de nouveau », ce n'est pas une solution en soi. Alors il y a des gens qui ont réfléchi à une solution. Donc c'est là pour le coup, on revient à un niveau moins fondamental, moins ontologique, mais voilà, depuis une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine maintenant, un nouveau débat s'est développé, c'est-à-dire en gros... comment considérer aujourd'hui le travail ? Alors, déjà évidemment, ces débats modernes vont arriver à un moment précis. C'est-à-dire que dans les années qu'on appelle les 30 glorieuses, de mémoire c'est 45-75, il y a des années d'expansion économique, de quasi plein emploi, c'est le sortir de la guerre, tout semble aller bien à peu près, à peu de choses près. Et puis commence le déclin. La fin du plein emploi dans la plupart des pays occidentaux, et puis une montée exponentielle du chômage. Alors j'ai quelques chiffres, 500 000, c'est à peu près, on n'a pas attendu pile que ça fasse 500 000, mais 500 000 en 1974, 1 million en 1977, 2 millions en 82, 3 millions en 92, puis après on pourrait continuer comme ça longtemps. Donc évidemment, on va commencer à transformer notre rapport au travail, et voilà. Alors autre facteur, je sais qu'on travaille, ce que je vais dire là va vous choquer, parce qu'on travaille de nouveau de plus en plus longtemps au niveau de la retraite. Mais malgré tout, il y a eu, vous le remarquerez peut-être ou pas, vous m'assassinerez avec vos questions après, une diminution du temps de travail journalier en général. C'est-à-dire qu'on est passé 10-12 heures par jour, progressivement vers plutôt 8 heures, plus 35 heures par semaine. Bon, alors après, on ne compte pas tout le travail qui se fait en dehors. Certes, un professeur, justement, ne travaille pas 35 heures par semaine devant élèves, mais enfin, avec les copies, préparation des cours, on y arrive. C'est dur d'évaluer, mais d'une façon générale, évidemment, il y a eu des changements qui se sont faits d'une façon radicale. Ne serait-ce que par le fait aussi que le plein emploi commençant à s'estomper, on en arrive à des situations où, justement, il faut constamment chercher autre chose et on est amené à avoir un rapport un peu différent au travail. On ne fait pas le même travail toute sa vie, aujourd'hui, ou alors rarement. Là encore, sauf exemple exceptionnel, les profs qui, très souvent, quand ils sont bien dans un lycée, ils passent toute leur carrière. Et parfois même, dans le lycée d'où je viens, ils y ont été élèves, et puis ils sont profs, et tout le temps. Voilà. Il y en a plein, c'est assez étonnant. Donc, ils vivent au rythme des récréations depuis toujours. C'est étonnant. Et des vacances scolaires, bon. Alors, Ulrich Beck... dans la société du risque, nous montre que, alors là on n'a pas le temps parce que là je vais bientôt devoir conclure, mais montre que l'industrialisation a changé la donne, encore une fois, etc. J'avais un beau texte, mais j'ai pas le temps de le lire. Vous pourrez le regarder. Alors, surtout André Gordes, qui a écrit Misère du présent, richesse du possible. On trouve au moins l'introduction gratuitement sur Internet, qui est très intéressante. Donc André Gordes, G-O-R-Z. Là encore, je n'ai pas le temps de faire un sort à André Gordes, mais un livre qui, je ne l'ai pas lu en entier du tout, j'en ai lu des extraits, mais Misère du présent, richesse du possible. En même temps, je n'ai pas pu le lire en entier parce qu'il est pratiquement plus disponible et on peut l'acheter sur Amazon, mais vers 350€ à peu près. Vous remarquerez que là encore, triste société que la nôtre, tous les bouquins d'occasion sur Amazon sont passent l'entendement au niveau du prix. C'est-à-dire que vous avez parfois les bouquins neufs encore en vente, quoi, 11€. Là, j'avais un livre très bien qui s'appelait Le roman du Big Bang, que je suis en train de lire. J'ai voulu le commander 11€ neuf, vous pouvez le commander, hein, pas de problème. Je l'ai le lendemain, mais des gens le vendent d'occasion jusqu'à 99€. Ils se disent, on ne sait jamais, quelqu'un aurait mal regardé, peut-être qu'un jour ça prendra de la valeur. Voilà, bon, c'est à peu près ça, et bon, enfin bref, peu importe, c'est pas trop le problème, mais quoi qu'il en soit, on a en revanche un débat plus précis entre Jérémy Rifkin, qui a écrit un livre qui va faire sensation, qui s'appelle « La fin du travail », et qui, en gros, pronostique les décennies à venir. Alors, on va avoir deux livres qui vont s'opposer, on conclura sur ce débat. Le livre de Rifkin prophétise, enfin, difficile de lui donner complètement tort, une raréfaction du travail offert, mais du coup qui s'accompagne du désinvestissement des valeurs de travail par les individus, qui sont plus désireux, nous dit-il, de désormais de trouver en dehors du travail, c'est-à-dire dans la sphère privée, le lieu de leur accomplissement. Voilà en gros ce qu'il dit. Aujourd'hui, le travail se perd, on a de moins en moins de facilité à en trouver, ils sont du coup pas forcément très intéressants parce que vous prenez ce qu'il y a, et donc de moins en moins, les gens se définissent par leur travail, et, mais pour lui c'est souhaitable, vont se définir de plus en plus parce qu'ils font en dehors du travail, et donc il faut essayer de réduire le temps de travail. À la question que j'ai énoncée au début de cette partie, c'était qu'est-ce qu'on fait de cet accroissement de la productivité? Eh bien lui, il dit, il faut arrêter de toujours essayer de produire plus, etc. Mais il faut essayer justement de diminuer de plus en plus le temps de travail. Si on arrive à 20 heures, pour lui, c'est bien. 20 heures, ça serait bien. Ça permettrait de trouver plein d'autres choses, de donner plus de travail aux gens. Enfin, en gros, voilà, c'est une sorte de redistribution. On travaille tous moins, donc tout le monde commence à retrouver de l'emploi et on a plus de temps pour faire autre chose. Et les gens se définissent de moins en moins par leur travail et le travail perd de son caractère aliénant. Voilà ce qu'il prophétise. D'une façon assez pas mal, hein, avec plein d'exemples, plein de tableaux, voilà, il essaye vraiment de faire un travail très sérieux pour essayer de montrer comment on pourrait arriver à une sorte de nouvelle façon de concevoir le travail. En même temps, on n'a pas beaucoup de choix si on veut, voilà. Donc lui, il nous dit, travaillons tous moins, mais essayons aussi de développer une vie qui ne se centre pas entièrement autour du travail. Bon. Et puis vous avez une sociologue qui s'appelle Dominique Schnapper, et qui va écrire un livre qui va contre-attaquer, qui va essayer de faire voler en éclats ce modèle, et qui va s'appeler de façon tout à fait étonnante, Contre la fin du travail. Donc le premier, c'était La fin du travail, et vous avez Contre la fin du travail, vous ne pouvez pas vous tromper, et qui nous dit, mais c'est tout aussi intéressant, que le travail, même lorsqu'il se raréfie, reste une valeur déterminante pour les individus et la société. C'est-à-dire que, loin que le travail constitue une valeur en voie de disparition, perdre son travail aujourd'hui, c'est toujours beaucoup plus que perdre son gagne-pain, dans la mesure où chacun situe dans le travail une part de son identité, et comme on l'avait dit avec Alain, il trouve une part importante de l'estime que les autres ont de lui et qu'il a de lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, le travail restera toujours, quoi qu'on dise, un facteur de cohésion sociale, qui permet justement de créer un sentiment d'appartenance à un monde commun. Donc en gros, c'est juste terrible qu'il y ait une crise de l'emploi majeure, mais on ne peut absolument pas tabler sur le fait que les gens perdent finalement, enfin, transforment leur façon de voir le travail et de se voir à travers leur travail. Donc là, ces deux visions opposées, mais qui finalement sont assez conciliables. Et je terminerai là-dessus, finalement, ça me servira de conclusion. Donc c'est plutôt des pistes, hein, je vous encourage. Ça existe, la fin du travail, le concept de fin du travail existe, et surtout aujourd'hui se trouve à travers les livres de Jeremy Rifkin, pour toutes les raisons qu'on a dites. Donc la fin du travail, notamment lui, mais d'autres aussi, déjà on peut commencer par là, qui donc essaye de dire, voilà, il faut s'organiser autrement pour essayer de diminuer le temps de travail de chacun. Et vous avez donc d'autres qui considèrent que non, mais on peut concilier un peu les deux perspectives en se disant que peut-être qu'au fond, les deux ont un peu raison. Alors je fais un peu mon Paul Ricoeur, en disant que, simplement, mais il y a une transformation dans la façon de voir le travail. C'est-à-dire que le travail sera probablement de moins en moins une sorte de nécessité pour des raisons de survie. Mais en revanche, de plus en plus, justement, quelque chose dans lequel on trouvera toujours notre connaissance. Et donc l'estime de notre personne, et donc l'estime des autres. C'est-à-dire qu'en gros, je serais assez pour concilier les deux perspectives. C'est-à-dire, j'aimerais quand même bien qu'on diminue tous notre temps de travail, pour pouvoir aussi au plus profiter de notre travail. Mais voilà, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, garder avec Rifkin cette idée de réorganiser, puisque manifestement, ça marche pas très bien, la façon dont on l'organise actuellement, la façon dont on le vit, comme quelque chose qu'on subit. Mais tout en gardant aussi un œil sur ce que nous dit, Madame Schnapper, en disant que, justement, ça permettra d'autant mieux d'apprécier son travail que peut-être d'être moins complètement envahi par son travail. Genre, on l'apprécie d'autant mieux qu'on n'en souffre pas. Et en se gardant aussi du temps pour faire autre chose et se cultiver en tant qu'homme, évidemment. Bon, mais d'une façon globale, hein, je donnerai raison surtout à Heidegger en disant que c'est le monde dans son ensemble qui est évidemment à revoir, mais ça tombe bien, on est en pleine crise et on est justement en train de le revoir, en tout cas c'est ce qui me semble et c'est ce que j'espère réellement. Donc peut-on concevoir une société sans travail? Je me suis juré que je répondrais quand même à la question, non. Non, vous en doutiez hein, que je terminerai par ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, mais on peut transformer évidemment la façon même de voir le travail et plus généralement la façon même de voir l'existence humaine. Je vous remercie de votre attention.